crois qu'il y a des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la Franf, la fédération des radios associatives du nord de la France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Franf, le magazine des radios associatives du nord de la France. Je vous rappelle le principe de ce magazine que vous commencez, en tous les cas on l'espère, à connaître chaque mois. Un invité réagit à des reportages de terrain sur une question de société. Avec nous pour ce troisième numéro, Jean Pasqualini de PFM à Arras, René Lavergne de Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq
et Jean-Philippe Planck de Radio Plus à Douvres.
On va aujourd'hui souffler tous ensemble les deux bougies du Louvre-Lens. Évidemment, un anniversaire, c'est toujours le moment des bilans. D'autant que le Louvre-Lens a été dès le départ présenté comme une chance, voire une renaissance pour le bassin minier, comme un véritable moteur pour le territoire, et que du coup, les attentes et les espérances étaient grandes. Deux ans après, avec 1 400 000 visiteurs et 42 millions d'euros de retombées estimées sur les 12 premiers mois, le Louvre-Lens est-il parvenu à jouer ce double rôle de locomotive économique et culturelle ? Et au-delà de ce bilan, qu'en est-il de ce nouveau modèle de décentralisation culturelle que le musée semble incarner ? Pour répondre à ces questions, qui de mieux que le directeur du Louvre-Lens ? Xavier Dectot, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre choix de directeur a été interprété comme un choix audacieux, celui d'un directeur jeune. Vous aviez 37 ans au moment de votre prise de fonction en mars 2011. Henri Loiret, l'ancien directeur du Louvre, parlait alors de votre appétit et de votre envie de venir sur le territoire. Xavier Dectot, sur le territoire, vous y êtes. Trois ans après, cet appétit, est-ce qu'il est toujours intact ?
Oui, il est toujours intact. Je me sens beaucoup plus vieux d'un seul coup. Mais oui, il est toujours intact. Il y a une vraie richesse de ce territoire. Et puis, on y reviendra peut-être, mais l'appropriation du Louvre-Lens par le territoire a été très forte. Je pense que si aujourd'hui, après deux ans, c'est un peu tôt pour tirer un bilan complet et dire ça y est, c'est bon, on a marché, ça a marché. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que l'appropriation par le territoire, l'intégration du Louvre-Lens dans le territoire, elle s'est faite et c'est vraiment un de nos grands succès, un de mes grands motifs de satisfaction.
Alors rappelons au passage que vous êtes parisien, diplômé de l'École nationale des chartes et ancien directeur du musée du Moyen-Âge de Cluny à Paris.
Excusez-moi de vous interrompre, allez-y. Mais quand on fait des opérations à caractère culturel comme celle-ci, tellement importante. L'image que les entreprises peuvent avoir de la région se trouve considérablement valorisée. Et ça les attire. Oui. On peut espérer ça quand même, d'une manière très positive.
Au cœur de notre ambition. Je ne dirais pas que comme à Bilbao, et c'était un peu vraiment cela, le Louvre est un prétexte, mais le Louvre est une chance, une occasion, un miracle,
un levier
que nous allons essayer de généraliser à travers nos structures.
Et en visitant le chantier, je suis vraiment content d'être venu parce qu'on prend vraiment la mesure de la qualité exceptionnelle de la réalisation. Quand j'étais venu pour la première pierre, on voyait la maquette, on voyait, il y avait un bâtiment provisoire, tout ça a été très attirant. Alors là, on est vraiment impressionné. Vraiment impressionné.
À l'instant, un petit son d'archives exhumé par René Lavergne. Xavier Dectot, c'était en janvier 2012, lors d'une visite de chantier. Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, s'entretenait avec Daniel Percheron, toujours président de région. À les entendre, on sent bien que derrière le Louvre-Lens, il y a presque au premier chef un objectif économique. Daniel Percheron le dit sans le dire. Le Louvre-Lens est pratiquement un prétexte. Alors le Louvre-Lens, projet culturel ou équipement culturel à finalité économique ? Une question que vous vous êtes posée, Jean.
Oui, justement, nous vous proposons d'écouter maintenant deux points de vue différents, voire opposés sur cette question. Celui de Catherine Génisson, vice-présidente en charge de la culture au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et celui de Lucien Petit, un des animateurs du LAG, lieu culturel et contestataire autogéré de Liévin, inauguré il y a deux ans. Ces deux interviews sont parsemées de micro-trottoirs et réalisées par l'Office du tourisme Lens Liévin et d'extraits décapants du film Tu l'ouvres Lens, réalisé par le journal La Brique en décembre 2011. On commence tout de suite avec Catherine Génisson.
constater que les citoyens du territoire se sont complètement appropriés le lieu, n'ont aucune timidité et au contraire sont fiers de ce lieu et le considèrent comme étant leur lieu, pour moi c'est un magnifique succès et un très grand bonheur. Je crois que c'est un des rares musées de France, peut-être avec la piscine dans notre région Nord-Pas-de-Calais, qui a une fréquentation populaire. Les études de public qui ont été faites montrent vraiment qu'on a une proportion de public du territoire et de public populaire qui est très importante, et ça je crois que c'est une grande fierté.
Ici nous sommes au Louvre-Lens et il a été bâti sur la fosse 9 des mines de Lens. Moi je suis un fils de mineur, c'est bien parce qu'au moins ça va donner un dynamisme à la région, c'est ce qu'il faut.
C'est toujours très fragile parce qu'à côté de la Galerie du Temps, il y a les expositions temporaires pour lesquelles il faut trouver la bonne programmation, le beau tempo, la bonne attractivité. C'est pas facile. Et puis, j'allais dire, la relation au public est quand même quelque chose de fragile parce qu'il faut que ce public revienne, il faut que ce public se renouvelle. Donc il faudra qu'on garde cette magie de la Galerie du Temps avec les œuvres majeures du Louvre, parce que ce que l'on pouvait craindre au début et ce que les gens craignaient, c'est que ce soit les œuvres mineures qui soient présentées au Louvre-Lens, ce qui n'est absolument pas le cas, ce sont les œuvres majeures du Louvre. Et c'est garder cette magie du lieu. Et puis, bon, il y a un support aujourd'hui qui fait que la Galerie du Temps fonctionne si bien, c'est la gratuité d'accès de cette Galerie du Temps. Or, pourrons-nous garder cette gratuité tout le temps? Certains élus de tous bords politiques, d'ailleurs, certains conservateurs de musées considèrent que ça pourrait être une concurrence, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un moteur.
Oui, oui. La première fois à Lens. Et cette exposition, c'est magnifique. Ouais.
Je suis de Metz, je visite le coin. C'est sympa, on a le centre Georges Pompidou à Metz, il y a le centre maintenant, le Louvre à Lens. Je trouve que c'est sympa d'aller le voir et puis c'est gratuit, donc c'est toujours bien de pouvoir se cultiver gratuitement, quoi.
Nous avons également la très grande nouvelle et la très belle nouvelle de l'installation des réserves du Louvre à Liévin, de façon contiguë au Louvre-Lens. Et ça, je crois que ça va pérenniser, stabiliser également l'existence du Louvre-Lens, avec aussi toute la partie volet économique avec Euralens, qui permet de faire en sorte que le Louvre-Lens, au-delà de sa fonction intrinsèque de facteur d'émancipation de chacun d'entre nous et de bonheur personnel que chacun d'entre nous peut rencontrer avec l'œuvre d'art, c'est aussi un starter économique et un argument économique pour le développement de ce territoire qui en a tellement besoin. Et ça commence vraiment à marcher. Ça commence vraiment à marcher et ça, on peut que s'en réjouir.
Chers visiteurs, aujourd'hui, à 15h, la visite des coulisses et des réserves vous permettra de découvrir l'envers du décor du Louvre-Lens.
On est quatre dans ce train régional qui nous emmène à Lens. Deux personnes du journal La Brique, qui sévit sur l'île et sa région, et deux autres du collectif de vidéos Regarde à vue, basé autour de Paris. On part à Lens, continuer une enquête menée par La Brique sur l'aménagement urbain dans une région soi-disant sinistrée par le chômage depuis la fermeture des dernières mines.
J'ai quand même envie de commencer par dire que ce que propose un musée, c'est chouette. Et la démarche culturelle qu'il y a derrière un musée, elle est intéressante. Je comparais avec des événements type 1000-3000, qui s'inscrivent un petit peu dans une démarche de culture de masse, où les gens doivent se déplacer à un même endroit, communier ensemble, une démarche très descendante, du haut vers le bas, sans apport critique. Le musée, c'est pas ça. Et le Louvre-Lens, c'est pas ça en particulier.
On comprend entre les mots que ce projet est du copier-coller, comme le Guggenheim de Bilbao, le Pompidou de Metz, qu'il s'agit d'une solution à la mode, passe-partout.
Alors, dynamisation culturelle du territoire, aujourd'hui dans la pratique, deux ans après, on n'a pas d'indicateur là-dessus. Autrement dit, on n'a pas constaté de repli de l'activité culturelle ailleurs. Et à l'opposé, on n'a pas non plus constaté de dynamisme supplémentaire de ces activités culturelles. La question de ce qui va se passer sur le moyen et le long terme, cette crainte que le Louvre soit un aspirateur qui éjecte plus ou moins les petites structures locales, elle reste entière, mais aujourd'hui, nous, si on continue à se la poser, on n'a pas d'indicateur, ni dans un sens, ni dans l'autre.
C'est une locomotive.
Oui.
Une locomotive, ce musée, c'est plutôt un cheval de Troie qui emmène dans son sillage des projets urbains d'envergure qui détruisent les maisons, quartiers et vie ouvrière. C'est l'association Euralens.
Objectivement, moi je fais partie des gens qui pensent, et on est nombreux à le penser au LAG, qui pensent que parmi les causes, parmi les responsables en tout cas de cette situation, il y a les décideurs politiques et économiques, hein, le patronat régional et le patronat local, ont une large part de responsabilité dans la situation qui est faite au bassin minier. Alors qu'aujourd'hui, les mêmes personnes s'enthousiasment pour le Louvre en disant c'est ça qui va permettre à la population de respirer un nouvel air, je suis assez sceptique. Autrement dit, je fais pas tellement confiance à des gens qui ont mis sous leur coupe des populations pour les exploiter dans le sens de leurs intérêts et de leurs profits. Je ne fais pas tellement confiance à ces gens-là et j'aurais tendance à me dire qu'est-ce que ça cache. Hein, bon, j'essaie de réfléchir à ces choses-là posément, mais je me dis que les responsabilités, on peut pas à la fois être responsable d'une situation et ensuite proposer de la régler d'un coup de baguette magique avec un équipement comme le Louvre-Lens. Voilà, moi, je suis interpellé par ce type de responsabilité.
À l'instant, Lucien Petit, un des animateurs du Lac de Liévin. Vous êtes toujours dans Parlons Franf, le magazine de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, avec comme invité aujourd'hui Xavier Decteau, le directeur du Louvre-Lens, Jean Pascolini.
Oui, alors dans le reportage, selon Catherine Génisson, vice-présidente culture de la région Nord-Pas-de-Calais, qu'on entendait bien, je cite, « Les habitants se sont appropriés le Louvre-Lens, qui connaît une fréquentation populaire, mais rajoute-t-elle, c'est fragile. Lucien Petit, quant à lui, n'a pas perçu d'indicateur significatif de dynamique culturelle, en positif ou en négatif, du Louvre-Lens. Il évoque même le risque que le Louvre-Lens soit un aspirateur des petites structures locales. » Xavier Decteau, votre réaction?
Si vous me pardonnez le mauvais jeu de mots, je dirais qu'il lague un peu, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu avant l'ouverture. Et effectivement, il y avait des craintes, parce que voilà, il y a un gros équipement culturel qui vient s'installer, et que donc, il va siphonner, détruire les petits équipements. Je dirais que c'est une méconnaissance profonde de ce qu'est la nature, de ce que sont la nature des pratiques culturelles, de ce qu'est la nature de l'activité culturelle. C'est un domaine où finalement plus il y en a, plus les gens y vont, plus les gens en font. Donc augmenter l'offre, c'est pas un risque, c'est une lecture finalement purement économique des choses que de se dire si on augmente l'offre, il va y avoir des acteurs qui vont disparaître simplement parce que la demande elle est stable. Les pratiques culturelles, c'est vraiment des pratiques, on s'en rend compte, qui sont addictives. Plus on en a, plus on en veut. Et au contraire, l'arrivée d'un équipement comme le Louvre-Lens ne peut que renforcer les petites structures culturelles par à la fois par pas la concurrence, mais par l'émulation, aussi par le fait que nous, depuis qu'on est là, dans le domaine du spectacle vivant, on a quand même accueilli un certain nombre de compagnies du territoire, alors pas toutes. Évidemment, il y a toujours des gens qui sont déçus parce qu'on ne les a pas pris ou pas encore pris, mais on en a accueilli, on leur donne une autre façon d'être vu. Et puis globalement, on augmente la visibilité culturelle du territoire. Si on augmente la visibilité culturelle du territoire, ça profite à tous. On peut dire, parce que oui, c'est un jeu de posture d'ailleurs des deux côtés, mais c'est un jeu de posture de dire « oh, j'ai rien vu ni en bien ni en mal ». La réalité, elle est quand même là. La fréquentation des musées dans les environs, elle a augmenté. Et on pourrait dire, il n'y a pas d'élément pour dire que c'est par le Louvre-Lens ou pas par le Louvre-Lens. Sauf qu'on a une augmentation de la fréquentation par la population néerlandophone. Et s'il y a une caractéristique du Louvre-Lens, c'est d'avoir un visiteur sur six qui est néerlandophone. Donc le fait que depuis l'ouverture du Louvre-Lens, on trouve des néerlandophones à Le Ward, qu'on trouve des néerlandophones à Douai, qu'on en trouve à Arras, c'est aussi un témoignage du fait qu'on a apporté quelque chose de neuf. Et pour l'appropriation par la population, alors je ne sais pas si au Lac, on considère que le fait d'aller au Louvre-Lens est une pratique culturelle ou pas, ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, on a accueilli plus de 200 000 habitants de l'arrondissement de Lens au Louvre-Lens, que comme le disait Catherine Génisson, pour être précis, 20% de nos visiteurs sont employés et ouvriers. Alors certes, ça n'est que 20%, mais il faut bien voir que nous, on parle de toute la population et pas juste de la population active, premièrement. Et deuxièmement, qu'on le voit aussi très bien, ces 20%, ce sont des visiteurs du territoire, ces employés et ces ouvriers, ce sont des visiteurs du territoire. Donc par rapport à la population du Nord-Pas-de-Calais ou par rapport à la population de l'arrondissement de Lens, la proportion effectivement de public populaire est encore plus importante. De ce point de vue-là, au moins, on peut dire que oui, il y a un développement des pratiques culturelles sur le territoire.
Catherine Génisson rajoute « oui, mais c'est fragile ».
C'est fragile, oui, c'est toujours fragile. On est un musée jeune, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est trop tôt à mon sens pour pour tirer un bilan brillant et dire ça y est, c'est bon, on a réussi. On peut dire ce qu'on a fait pendant les deux premières années, mais pour que le Louvre-Lens, pour pouvoir parler de réussite ou d'échec du Louvre-Lens, il faudra attendre 5 ans, il faudra attendre 10 ans. On est sur un projet de long terme. C'est long à l'échelle d'une ville humaine, mais c'est comme ça.
Alors, retour à la question initiale. Pour vous, le Louvre-Lens, est-ce que c'est d'abord un projet culturel ou un projet culturel dont la finalité est finalement économique?
C'est un projet culturel, mais tout projet culturel a des conséquences économiques. Là encore, c'est une vision qui, à mon sens, est un peu... C'est un peu un jeu de posture que d'opposer le culturel et l'économique. Partout, dans toutes les grandes villes, on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dans la tête, la culture, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas ce qui vient après, c'est ce qui vient à la base, c'est ce qui structure la société, c'est ce qui fait le lien social et ce qui fait derrière la possibilité du développement économique et du développement d'un territoire en général. Donc oui, on est un projet qui a entre autres des finalités économiques, un espoir de transformation pour ce territoire, mais on est avant tout un projet culturel.
Alors Catherine Génisson le souligne, la gratuité de l'accès à la Galerie du Temps est un facteur clé de la fréquentation populaire du musée. Qu'en pensez-vous et quelles sont les actions que mène le Louvre-Lens en direction des publics éloignés ? Pour justement favoriser ces pratiques culturelles et la fréquentation du musée.
Alors oui, la gratuité est un facteur d'appropriation très fort. Il ne faut juste pas oublier que la culture a un coût. Je veux dire, le fonctionnement du musée a un coût. Donc ce qui n'est pas payé par les visiteurs est payé par ailleurs, que ce soit par les collectivités territoriales qui nous financent, au premier rang desquelles la région Nord-Pas-de-Calais, ou je vais dire un gros mot, par des mécènes aussi, donc par de l'argent qui nous est apporté par des sociétés privées. C'est comme ça que le Louvre-Lens peut fonctionner. Donc ça a un coût, la gratuité, mais c'est un élément très fort. Et alors, pour aller vers les publics éloignés, on fait beaucoup de choses. Avant l'ouverture, je vais commencer par avant l'ouverture, un moment où, quand je suis arrivé, on m'a expliqué au Louvre-Lens, au début, ça sera pour les Lillois et les Parisiens, mais les gens du coin, ils viendront pas, ou alors faudra les amener pratiquement à la pointe de la baïonnette. La maison du projet avait déjà commencé à quadriller les environs immédiats, et nous, on a vraiment quadrillé le territoire. Nos médiateurs sont sortis, ils sont allés faire du porte-à-porte, ils sont allés dans les piscines, ils sont allés dans les supermarchés pour rencontrer les gens. Et puis derrière, on a travaillé avec des associations, avec l'école de la deuxième chance, avec aussi, là encore, des mécènes comme Total ou Maison et Cité, qui nous ont aidés à aller vers des publics éloignés, justement, pour trouver le moyen de les faire venir, de leur faire découvrir les choses autrement, en essayant notamment de beaucoup travailler sous un angle qui, à mon sens, est très important dans le monde des musées, c'est l'angle de la famille. Parce que si on vient en famille, on aura tendance à revenir.
Pissing in the River, c'était Patti Smith, extrait de l'album Radio Ethiopia, paru en octobre 1976. Xavier Dectot, vous avez sans doute saisi le clin d'œil. Patti Smith annoncé pour une carte blanche en mai dernier au Louvre-Lens, et puis non, finalement, ça ne s'est pas fait. Vous avez fait beaucoup de déçus.
Et moi le premier, mais voilà, la carte blanche de Patti Smith est une très grande artiste. En même temps, en un sens... Pour le moment, en tout cas, elle est trop grande pour le Louvre-Lens seul. C'était un accueil qui devait se faire en commun entre le Louvre-Lens et le Louvre à Paris. C'était dans le cadre d'une carte blanche à Paris que Patti Smith devait venir passer du temps à Lens. La carte blanche à Paris a été annulée pour de nombreuses raisons que je vous avoue ne même pas connaître moi toutes. Mais en tout cas, plus de Patti Smith au Louvre à Paris. Et il en est résulté l'impossibilité pour nous de la faire venir seulement à Lens. Et donc, on a malheureusement dû annuler sa venue. Mais j'ai été déçu autant que les autres.
À présent, je vous propose, Xavier Decteau, de repartir en janvier 2012. Toujours avec Frédéric Mitterrand et Daniel Percheron qui poursuivent leur visite de chantier.
Ça va représenter combien d'emplois ?
Ça va représenter plus de 100 emplois directs et des centaines d'emplois induits. Et nous l'espérons, à l'image de Bilbao, à l'image de la Roue refondée, reverdie et redynamisée, à l'image de Liverpool, nous espérons que cela va représenter des milliers d'emplois liés à ce qu'on appelle l'économie résidentielle.
On a fait des perspectives de visiteurs.
Oui,
de
nombre
de
visiteurs. Nous sommes entre 500 000 et 700 000. Et secrètement, après Pompidou-Metz, nous espérons peut-être un jour aller au-delà.
Les espoirs donc de Daniel Percheron en termes d'emploi et de visiteurs lors de cette visite du chantier du Louvre-Lens en janvier 2012. Le Louvre-Lens qui était fortement attendu sur les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Alors qu'en est-il 2 ans après l'ouverture du musée? Les réponses croisées de Marlène Viré, chargée de promotion de l'Office du tourisme de Lens-Liévin, et de Bruno Rosic, président de Shopping Lens, l'union commerçante de Lens, précédée d'un autre saut dans le temps, cette fois au moment de l'inauguration en décembre 2012 avec Guy Delcourt, l'ancien maire de Lens, et toujours le président de région, Daniel Percheron.
Le Louvre-Lens, le plus beau musée du monde, dans la ville la plus pauvre de France, je le rappelle quand même, dans sa strate démographique. C'est quand même extraordinaire.
Nous sommes au cœur de la deuxième zone au monde de pouvoir d'achat. Nous sommes au cœur de la richesse européenne. Dans un rayon de 150 km, d'une heure et demie de TGV, nous avons le plus fort pouvoir d'achat au monde après Tokyo, avant New York et avant Shanghai.
On a constaté une hausse en termes de fréquentation, que ce soit en termes de sollicitations téléphoniques, puisqu'on a eu à peu près sur ces 2 années écoulées environ 60% d'appels en plus par rapport à avant l'ouverture du musée du Louvre. En termes de fréquentation au guichet de l'Office de tourisme, on retrouve également une hausse moins importante que celle des appels téléphoniques, où là on a à peu près 10% de visiteurs en plus qui se déplacent dans les locaux de l'Office de tourisme. Mais là où on a vraiment une très forte progression, c'est sur les connexions sur le site web, puisqu'on atteint désormais une fréquentation mensuelle d'environ 15 000 visites par mois, soit à peu près 2 fois plus qu'avant l'ouverture du Louvre-Lens.
Alors sur la première année, l'effet Louvre effectivement s'est fait sentir, notamment chez nos collègues restaurateurs et cafetiers qui ont vu une arrivée massive de touristes. Aujourd'hui, je dirais que le soufflet est un peu retombé et l'effet Louvre est beaucoup moins visible aujourd'hui chez nos collègues restaurateurs. En hôtellerie, je veux dire que l'ensemble des collègues ont une augmentation de l'ordre de, on va dire, de 5 à 10%. Donc c'est infime aujourd'hui. En fait, on s'aperçoit que le visiteur du musée vient voir le musée et puis ensuite il repart. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le maintenir sur Lens, à le faire venir au cœur de ville pour fréquenter les commerces ou autre chose. Bon, ça, je pense que c'est dû au fait qu'on n'a pas un marqueur fort dans le centre-ville de type galerie de commerce de luxe. Puisqu'il y a du potentiel et il y a du public pour ça, qui pourrait effectivement attirer les touristes et leur donner envie de rester une heure ou deux de plus au cœur de la ville de Lens.
Qui sont les touristes qui viennent sur le territoire ?
Alors, essentiellement des touristes français. Mais c'est vrai que depuis l'ouverture du musée, on a constaté en fait une inversion hein, dans nos chiffres de fréquentation. Avant le mois de décembre 2012, on accueillait essentiellement un public régional venant du Nord-Pas-de-Calais à 60%. Désormais, ce sont 60% de nos visiteurs qui viennent d'autres régions de France. Et donc, les visiteurs du Nord-Pas-de-Calais sont tombés à 30%. On a également une clientèle étrangère, au premier rang desquels les Belges, hein, qui sont venus très nombreux nous visiter, puis également des Anglais et des Néerlandais. Et dans les régions françaises, c'est la région parisienne qui arrive en tête, hein, puisque ils représentent à peu près 25% de la clientèle nationale. Les Britanniques sont toujours présents, mais davantage à l'ouest du territoire sur les sites de mémoire, hein, que sont notamment le parc commémoratif canadien de Vimy ou encore la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette. On les a moins retrouvés au musée. On a envie de travailler un marché qui est pour nous prioritaire. Et justement, c'est un des axes de développement de faire en sorte que ce public qui se déplace, on le sait, sur le territoire pour venir dans le cadre des chemins de mémoire, viennent aussi jusqu'à Lens pour visiter le musée du Louvre.
Bon, il y a des nouvelles enseignes qui vont arriver, qui sont sur le point d'arriver là au niveau de Lens. Il y a tout un programme immobilier sur la rue de la Gare également qui va permettre à des moyennes surfaces de venir s'implanter. On travaille également sur l'aspect circulation, le déplacement, parce qu'il faut rendre beaucoup plus facile l'accès depuis le musée jusqu'au cœur de ville.
C'est vrai que pour désormais fréquenter des réunions de professionnels du tourisme, hein, tour opérateurs, autocaristes, réellement c'est leur demande d'avoir des hébergements plus à Lens, de pouvoir alloter un nombre de chambres conséquent, de manière à pouvoir ensuite programmer Lens dans les catalogues des tours opérateurs internationaux.
Je crois que l'attente était très importante. On part de loin, on part de zéro, et puis on en a tellement parlé que l'attente a été très forte chez l'ensemble des commerçants. Et aujourd'hui, bon, je comprends qu'il y a un peu de déception, d'amertume, et que nos collègues, par exemple, tout ce qui touche à l'habillement, tout ce qui touche à l'équipement de la maison, les cadeaux, ça n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Mais bon, je pense que c'est un travail de longue haleine, et puis il nous faudra encore quelques années pour pouvoir trouver les bonnes astuces pour faire dépenser un peu d'argent aux touristes dans le cœur de ville.
Retour dans Parlons France, le magazine mensuel des radios associatives du Nord-Pas-de-Calais. Invité aujourd'hui à l'occasion des 2 ans du Louvre-Lens, son directeur Xavier Dectou. Alors, 42 millions d'euros, c'est l'impact économique estimé du Louvre-Lens au cours des 12 premiers mois d'activité. On en a parlé en tout début d'émission, hein, avec un panier moyen des visiteurs non régionaux de 91 euros sur le territoire, d'après des données fournies tout récemment par Euralens. Alors, espérez-vous, Xavier Dectou, obtenir les mêmes résultats dans les années qui suivent ? Parce qu'on a un peu de mal à croire Daniel Percheron lorsqu'il affirme que nous sommes dans la deuxième zone de pouvoir d'achat du monde.
Alors, vous pouvez tout à fait croire Daniel Percheron, alors pas quand il vous dit que 150 km c'est 1h30 de TGV, ou alors on prend pas les mêmes, mais que dans un rayon de 150 km autour de nous, c'est-à-dire qu'il va, en gros, un cercle qui va de Bruxelles ou d'Amsterdam à Paris et de Londres à Francfort à peu près, oui, on est dans la région la plus riche du monde, ou une des deux régions les plus riches du monde. Alors, à Lens même, ça se voit pas, mais c'est une réalité. Et après, il faut avoir conscience du fait que la pauvreté est relative. On est quand même moins pauvre à Lens que dans d'autres régions du monde. Cela dit, non, on refera en toute franchise, on refera pas 42 millions de retombées économiques sur un an, ou pas tout de suite, parce que j'ai bien écouté ce que disait Bruno Rosic, et je comprends la déception des restaurateurs en particulier, mais pourtant c'est quelque chose sur lequel personnellement j'avais toujours alerté. On avait annoncé la première année 700 000 visiteurs et puis 500 000 visiteurs en année, on va dire, de croisière. La première année, on a fait 900 000 visiteurs. Forcément, c'est plus. Sachant que après, nos objectifs n'ont pas changé, ils restaient autour de 500 000 visiteurs. Et 500 000 visiteurs, bon an, mal an, c'est 40% de moins que 900 000. Donc forcément, il y a eu 40% de touristes en moins. Donc le chiffre d'affaires des restaurants qui, eux, ont été touchés dès le départ par les retombées, il a baissé. C'était, et c'est logique.
Cela dit, voilà, quand j'entends le même Bruno Rosy dire que l'augmentation des pour les hôtels dans la région, il est autour de 10% et 10% c'est peanuts. Personnellement, une augmentation de 10% du chiffre d'affaires et voilà du volume vendu, il y a beaucoup de gens qui en rêveraient. Donc, peut-être est-il eu beaucoup de projections et de très grosses projections sur le Louvre-Lens qui, du jour au lendemain, allait tout transformer. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Et oui, il y a eu un pic. On est aujourd'hui un peu en dessous, mais on est quand même très au-dessus de ce dont on partait. Et la réalité en termes de fréquentation touristique, elle reste très forte, même si, effectivement, je pense qu'un des points que Bruno Rosic n'a pas souligné, que Marlène Viré a davantage souligné, l'offre hôtelière n'est pas suffisante aujourd'hui pour permettre de retenir les touristes sur le territoire. C'est une réalité. Il y a des hôtels qui ne sont pas pleins, mais l'offre hôtelière dans sa diversité n'est pas suffisante. C'est quelque chose dont on aura besoin à long terme pour que les choses s'ancrent vraiment.
Alors, on estime, toujours d'après la même enquête de Rallance, à 400 le nombre d'emplois créés directement par l'ouverture du Louvre-Lens. S'agit-il, selon vous, Xavier Decteau, des prémices d'une dynamique plus large sur l'emploi, comme semble le suggérer cette enquête ?
Je l'espère. Franchement, je l'espère. Alors, 400, c'est pas le nombre d'emplois directs. Les emplois directs créés par le Louvre-Lens, c'est-à-dire l'équipe du Louvre-Lens en elle-même, plus l'accueil, la surveillance, enfin l'ensemble des gens qui travaillent sur le site, on est plutôt autour de 200. Les 200 autres, c'est ce qui a été créé justement dans le domaine de la restauration, du tourisme. Et oui, je pense que ça n'est qu'un début. Toutes les études montrent que le bassin lensois est en retard non seulement par rapport au niveau national, mais même par rapport au niveau régional sur la part du tourisme dans l'emploi global. On est sur quelque chose qui s'installe sur le long terme. Encore une fois, il y a des choses qui vont plus vite, je pense, et d'autres qui prennent plus de temps parce qu'elles sont plus structurantes aussi et plus longues. Je pense à l'action de certains clusters comme le pôle numérique culturel ou l'Institut des métiers d'art et du patrimoine qui doivent inciter des entreprises à s'installer sur le territoire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais souvenez-vous d'il y a 2 ans, aujourd'hui, on a des gens qui viennent à Lens et qui viennent dans la région parce qu'il y a le Louvre-Lens. Il y a 2 ans, ça n'était pas le cas. Après, Paris ne s'est pas fait en un jour et ça ne va pas changer en un claquement de doigts.
Alors, en définitive, selon vous, est-ce que justement le train du développement économique est en marche ? Et quand pourra-t-on faire un véritable bilan économique ?
Alors j'espère que le train du développement économique est en marche. En tout cas, on fait tout pour que, effectivement, le projet de développement économique, projet de développement social, de démocratisation, projet de développement culturel surtout, fonctionne et porte ses fruits. C'est quelque chose dont on peut vraiment commencer à mesurer les effets au bout de 10 ans. C'est à peu près, par exemple, l'INSEE a lancé une étude pour voir les effets en comparant avec d'autres territoires français, justement, pour avoir une vision assez objective des effets du Louvre-Lens sur la transformation du territoire. Et elle a lancé cette étude avec un objectif à 10 ans. Donc je pense que 10 ans, ça nous met en 2022-2023, ça sera le bon moment pour voir si c'est une réussite ou pas.
Une courte pause musicale de circonstance avec Les Blaireaux, le gardien de musée.
Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse cette galerie, c'est la mienne. Si vous me cherchez, je suis toujours posté dans un coin de la salle des mythes antiques, à côté de Vulcain, contrit et contraint de voir sa femme exposée en public, nue sous les zéphyrs, belle à en mourir. Vénus ignore la foule des curieux. À moi c'est pas pareil, il faut bien que je la surveille, je ne peux pas la quitter des yeux. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne.
Vous êtes toujours à l'écoute de Parlons Franf, troisième numéro consacré aux 2 ans du Louvre-Lens avec son directeur Xavier Decteau. Louvre-Lens, Versailles, Arras, Pompidou, Metz, des formules de partenariat qui semblent se généraliser. La dernière en date aurait pu être Pompidou-Maubeuge. Le musée Pompidou devait en effet s'installer de 2015 à 2018 à l'Arsenal de Maubeuge, à l'occasion de Maubeuge, capitale régionale de la culture en 2015. Que reste-t-il de ce projet visiblement avorté en juillet dernier après le retrait du centre Pompidou ? La réponse des principaux intéressés au micro de Delphine Hernu et de Pauline Manet de Canal FM.
Le projet de centre Pompidou provisoire à Maubeuge, Didier Fusier, directeur du Théâtre du Manège, y a travaillé pendant 2 ans.
On est arrivé quand même à convaincre la ministre de la Culture, le président du centre Pompidou, d'installer ici une antenne. Donc ça veut dire un rayonnement énorme, puis surtout de baigner dans l'art d'aujourd'hui, et c'était magnifique.
Le projet devait être l'une des grandes annonces de Rémi Pauvros, alors député maire PS de Maubeuge, après sa réélection. Or, il n'a pas été réélu en mars dernier. Arnaud Decani de l'UDI lui a succédé.
Vous avez bien vu les déclarations de Daniel Percheron de la région le 22 octobre où il dit clairement que déjà le 3-4 avril, l'avenue de Pompidou était déjà fortement compromise. On a bien compris après avec les difficultés financières de l'agglomération que mon prédécesseur a été dans l'incapacité de lancer les travaux de l'Arsenal qui se montent à 10 millions d'euros. Et évidemment, devant l'Arsenal qui n'allait pas aboutir, Pompidou s'est désengagé.
Beaubourg à l'Arsenal de Maubeuge, un investissement de moins de 5 millions d'euros pour 3000 m² d'exposition. L'architecte Mathieu Berthelot de l'agence Lilloise Art Berthelot, 2 ans de travail déjà sur ce projet.
La maîtrise d'ouvrage nous a confirmé que le projet était à l'arrêt mais pas abandonné. On devrait être normalement informé dans les jours qui viennent du redémarrage du projet pour construire ce musée avec ou non le centre Pompidou, pour redémarrer un autre programme dans ce bâtiment ou arrêter définitivement ce projet et puis payer les dédits de l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur le projet.
Soit au minimum 1 million d'euros. À 2 mois du lancement de 11-2015, il y a comme un flottement dans l'air, mais encore de l'espoir. Benjamin Saint-Huil, président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre.
Si nous sommes en situation de pouvoir être accompagnés financièrement par les partenaires qui sont à l'initiative du projet, Mons et hier capitale régionale, demain territoire associé, bien sûr que nous prendrons notre part parce que nous ne pouvons pas passer à côté du train culturel européen qu'est Mons.
Et selon l'architecte Mathieu Berthelot, je cite, « les choses pourraient être rattrapées ». Maubeuge a une longueur d'avance sur les autres villes candidates à l'accueil du centre Pompidou Mobile. Maubeuge n'a qu'à appuyer sur le bouton et dans 10 mois, c'est fait. Xavier Decteau, j'imagine que vous avez suivi cette actualité également. Une brève réaction par rapport à cet abandon du projet Pompidou Maubeuge ?
Je connais pas suffisamment le dossier pour avoir une opinion tranchée. C'est toujours quelque chose de compliqué. En même temps, on peut déjà dire qu'il y a d'autres opportunités extraordinaires pour Maubeuge. Je rappelle que Maubeuge a un magnifique musée, mais qui est aujourd'hui fermé, et fermé depuis plusieurs années. Que tout ne commence pas et ne se termine pas avec les institutions parisiennes, même si les institutions parisiennes ont un grand rôle, et ce n'est pas le directeur du Louvre-Lens qui va vous dire le contraire. Mais il y a énormément d'autres moyens de faire les choses. Et voilà, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur un projet qui était aussi un projet temporaire. Je crois d'abord, personnellement, en tant que directeur du Louvre-Lens, aux projets structurants, aux projets qui s'inscrivent dans le long terme et pas aux projets événementiels qu'on ferait pour 3 mois, pour 6 mois.
Alors, ces partenariats que l'on vient d'évoquer et qui ont tendance à se multiplier posent question. S'inscrivent-ils dans le droit fil de ce que l'on a coutume d'appeler la décentralisation à la française ? Et au fait, c'est quoi la décentralisation à la française ? René Lavergne, vous allez nous éclairer à ce propos.
Eh bien oui, la culture fait partie aujourd'hui de notre quotidien et de notre environnement proche. Cette proximité des équipements culturels et ce rapport désormais favorisé aux œuvres n'a pas toujours existé. David Vercampin, chargé de mission Art de la scène pour le Conseil général du Pas-de-Calais et ancien directeur de l'escapade d'Hénin Beaumont, revient sur cette aventure de la décentralisation à l'origine de la richesse de la vie culturelle dans les provinces françaises et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, région pionnière en la matière.
Ça a commencé dans les années 60 avec le gouvernement Malraux et les maisons de la culture. Ça a été aussi le grand élan de Jean Villard avec la culture pour tous, partout et l'accès de chacun à l'œuvre et la constitution des maisons de la culture un peu partout en France, dont la première était à Amiens en 1957, je crois. avec un modèle de présentation de l'œuvre et de l'art partout où c'est possible en France.
On se souvient en région Nord-Pas-de-Calais, notamment du TPF, le Théâtre Populaire de Flandre, avec à l'époque l'irrigation du théâtre à Lille.
Oui, c'est vrai, oui. Et j'ai aussi eu l'occasion de vivre dans une structure qui en a poursuivi le modèle, bien qu'en n'ayant pas les moyens d'État, puisque à l'Escapade et Hénin-Beaumont, tout comme à Lens d'ailleurs, il y a eu des structures qui poursuivaient ce modèle. En fait, on peut dire que l'époque de Malraux a induit une certaine idée des équipements et des projets culturels en France par rapport à l'œuvre et à l'artiste. Évidemment, ça a été une époque qui a été suivie d'autres étapes dites de la décentralisation. Il y a trois actes après Malraux. Le second, c'était avec les lois Defferre en 1982, qui a permis à l'administration française de, on va dire, déléguer, en tout cas transférer des compétences aux départements, aux régions et aux villes, la création des régions à ce moment-là, le fait que ce ne soient plus les préfets qui soient les gouverneurs des départements, mais bien des institutions publiques, rajouté au fait que les lois Defferre ont créé la possibilité d'une clause générale de compétences, le fait de démocratiser les collectivités territoriales avec des élus qui votaient des budgets, de transférer des compétences au département à l'occasion, c'était les archives et la lecture publique. À la région, c'était l'inventaire des monuments historiques. Ainsi que leur donner la possibilité aux collectivités de prendre une forme de liberté de l'action culturelle dans leur territoire de référence a considérablement fait évoluer les choses.
Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française et qu'il faudrait y revenir. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés? Dans quelques années, non seulement vous ne proposerez pas de revenir en arrière, mais vous proposerez des moyens nouveaux pour accroître, si c'est possible, les libertés que nous donnons aux élus.
L'étape suivante, c'est la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, le 13 août 2004, sous le gouvernement Raffarin, avec les schémas départementaux d'enseignement, où là, les départements ont eu à poursuivre l'idée d'harmoniser l'enseignement artistique dans une définition des conservatoires, les conservatoires à rayonnement communaux, les conservatoires à rayonnement intercommunaux et régionaux, autour de la musique et de l'art dramatique.
Donc là, vient d'arriver dans le paysage Nord-Pas-de-Calais, en territoire, ex-bassin minier, le Louvre-Lens. Comment ça s'inscrit dans le paysage? C'est quand même relativement atypique comme formule.
Ben, le Louvre-Lens est l'enfant, on pourrait dire, de cette histoire. Il est novateur. Et il poursuit une forme d'idéal. Le Louvre, en tant que tel, est un équipement internationalement connu. Il poursuit une certaine idée de la conservation du patrimoine et de démocratisation de l'œuvre auprès du public. Et il vient le donner, il vient le transmettre comme un concept aujourd'hui sur un territoire qui n'est pas celui de la capitale. En ça, c'est, je pourrais dire, une continuité, en tout cas un continuum de l'intention de l'époque de Malraux, à ça près que viennent s'ajouter une réflexion croisée sur le concept avec les autres collectivités qui financent ou qui viennent soutenir le projet, que sont la région et le département du Pas-de-Calais.
Donc au-delà du Louvre-Lens, il y a aussi des irrigations, on va dire, qui viennent d'autres structures nationales qui proposent dans les régions des événements.
Bien sûr, on trouve des équipements dits labellisés qui, eux aussi, ont des financements croisés et des projets culturels partagés avec des axes de développement culturel que les collectivités défendent. On a les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les SMAC, scènes des musiques actuelles. Tous ces équipements ont un cahier des charges, une mission d'État à produire à l'échelle de l'État dit décentralisé sur les territoires. Et effectivement, en financement croisé, en acceptant, en absorbant l'idée que la culture se partage et ces financements croisés sont utiles à continuer une forme de décentralisation. Jusqu'à avoir des équipements qui poursuivent eux aussi ces objectifs et qui ne trouvent plus les financements de l'État, mais ceux des villes, des régions et des départements pour aller encore un peu plus loin dans les territoires, au plus profond des territoires de la France, on pourrait dire.
C'était David Vercampin, chargé de mission Art de la scène pour le Conseil général du Pas-de-Calais et ancien directeur de l'escapade à Hénin-Beaumont. On a pu également entendre Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de François Mitterrand de 1981 à 1984 et qui, à l'Assemblée nationale, défendait le vote de la loi sur la décentralisation. C'était le 12 septembre 1981. René Lavergne.
Oui, tout d'abord, Xavier Decteau, la décision du musée de Louvre de s'implanter à Lens, est-ce qu'elle a tenu compte du plus offrant ou correspondait-elle à l'époque, en perspective, au meilleur terrain pour sa stratégie de décentralisation, bref, pour le Louvre, 2 ans après, et si c'était à refaire ?
Ben, si c'était à refaire, je pense que y aurait une chose qui changerait, c'est que aujourd'hui, Lens est une évidence. Le choix de Lens était une évidence, non pas dans une stratégie, non pas l'idée de dans une stratégie tentaculaire ou quoi que ce soit. C'était par rapport à ce que le Louvre voulait être, à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire aller justement, on en a déjà parlé, vers des publics éloignés de la culture, montrer aussi le rôle que peut jouer un établissement public, un musée, dans la transformation d'un territoire, parce que oui, c'est un des objectifs. Lens, finalement, s'imposer. Alors, rétrospectivement, c'est facile à dire, mais quand on regarde par rapport aux candidats, aux autres candidats, Lens était une ville sans musée, Lens était une ville bien placée géographiquement, Lens était une ville dont l'histoire faisait qu'elle était éloignée de la culture par son histoire minière même, et le Louvre, justement, avait quelque chose à apporter à cette histoire minière. Il y avait un dialogue à tisser ici, plus important que dans les autres villes candidates. Donc, si c'était à refaire, on le referait à Lens, et probablement... Surtout, y aurait-il moins de critiques sur l'implantation du Louvre à Lens qu'il n'y en a eu. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs beaucoup plus dans ce territoire, dans la région Nord-Pas-de-Calais qu'ailleurs en France. Un des effets positifs aujourd'hui, je pense, du Louvre-Lens, un de ceux qu'on peut déjà juger, c'est la transformation de l'image du territoire vis-à-vis du pays, vis-à-vis en général, mais vis-à-vis du territoire en particulier, le changement d'image du territoire. Donc si c'était à refaire, je crois que Lens serait vraiment une évidence.
Alors, à l'époque du projet, on avait quand même constaté que l'État mettait peu d'argent sur la table, sinon pas du tout. Donc, est-ce que vous avez cette impression qu'on peut avoir également, voire cette crainte, que l'État se désengage et finalement délocalise à bon compte ?
J'irai pas jusqu'à dire délocalise à bon compte, c'est peut-être un peu exagéré. C'est une réalité aujourd'hui que dans un contexte financier qui est tendu, parce que c'est une réalité, je pense que tout le monde a remarqué vaguement que les budgets de l'État et des collectivités locales d'ailleurs étaient pas vraiment hausse. L'État est peut-être moins financeur direct de la culture qu'il ne l'a été. C'est pas, ça ne touche pas que le Louvre-Lens, hein, je pense au conservatoire. On a parlé des conservatoires de musique dont la part de l'État dans le financement a baissé de façon drastique ou à d'autres. Faut juste pas oublier que l'État apporte quand même 2-3 choses au Louvre-Lens. Le nom. Je rappelle que quand ça part à l'étranger, ça se vend, le nom Louvre. Enfin, ça se monnaie. Ici, ça ne s'est pas monnayé. Les collections, ce qui est quand même l'essentiel, hein, au Louvre-Lens, dans la Galerie du Temps, montre les collections du Louvre. C'est quelque chose qui n'est pas valorisable. Alors, effectivement, ça paraît pas comme un apport en cash en bas, mais ces collections, elles sont là. Ce sont elles qui font vivre le Louvre. L'ingénierie scientifique, au Louvre-Lens, on est 2 conservateurs. On n'est pas suffisant, on n'a pas assez de connaissances pour faire l'ensemble des expositions, être nous responsables du contenu de l'ensemble des expositions. On travaille main dans la main avec le Louvre pour cela. Donc il y a des apports de l'État, effectivement, ils ne sont pas en numéraire. La réalité, elle est là, effectivement, c'est que l'État donne de moins en moins et que la part de l'État dans le financement de la culture ne va pas en augmentant. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une grande richesse aussi que justement cette diversité des financements de la culture qui a été évoquée tout à l'heure et qui permet à toutes sortes de structures culturelles d'exister et de se développer?
Donc on assiste quand même à une vogue de franchise des musées nationaux, hein, le Louvre-Lens, on l'a dit, Pompidou, Versailles à Arras. Certains n'hésitent pas à parler d'exportation de marques. Effectivement, le Louvre est aussi une marque, hein, comme dans le domaine commercial. Oui. Est-ce que ce n'est pas finalement synonyme aussi de main mise, sinon de main basse sur la culture par le privé?
Alors non, je crois que c'est une reprise, c'est une volonté de la culture de maîtriser ce qu'elle est. Affirmer qu'il y a une marque Louvre, c'est aussi dire que le Louvre la contrôle, c'est aussi faire que des structures privées ne puissent pas s'approprier le travail du Louvre, mais permettre au Louvre de le contrôler, tout simplement. Le fonctionnement du monde de l'entreprise, il n'est pas forcément toujours mauvais. Hein. C'est pas parce que c'est l'entreprise, c'est pas parce que c'est des ouvriers que il y a une relation employé-patron-employé que c'est le mal. Il y a des choses à en garder.
Alors Xavier Decteau, on est en plein acte 3 hein, de la décentralisation, une nouvelle étape hein, dont la traduction culturelle reste à clarifier mais fait d'ores et déjà peur à nombre d'acteurs. Vous le voyez comment cet acte 3 de la décentralisation à l'aube de l'an 3 du Louvre-Lens?
Écoutez, j'ai plus tendance à essayer de me projeter dans l'avenir qu'à me dire que c'était mieux avant. Donc il y a une volonté quand même de multiplier justement la diffusion de la création par et la diffusion de l'action culturelle à différents étages. Après, oui, on va voir ce que cela donne, mais personnellement, je le vois de façon plutôt optimiste.
Xavier Decteau, merci. On souhaite un joyeux anniversaire au Louvre-Lens avant de se quitter. Un mot de la nouvelle exposition temporaire du musée consacrée à la place et au rôle de la figure animale dans la civilisation pharaonique. Des animaux et des pharaons, c'est son nom, à voir jusqu'en mars prochain. Autour de la table pour ce troisième numéro de Parlons Franf, René Lavergne de Radio Campus, Jean Pasqualini de PFM.
À la présentation, Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
À la technique, Julien Maille. À la coordination, Bruno Reguet. Parlons Franf vous donne rendez-vous, non pas en janvier, mais début février, pour un nouveau numéro consacré, cette fois aux questions d'inégalité en matière de mobilité. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned.